groupement qui réunit des réformés évangéliques et des évangéliques. Tout ça pour dire que ce mouvement de regroupement qui naît pour la Fédération protestante de France en 1905 et deviendra effectif un peu plus tard, eh bien, est un mouvement qui touche aussi le monde évangélique depuis longtemps, puisqu'au fond, eh bien, c'est déjà au milieu du XIXe siècle qu'est créée l'Alliance évangélique internationale et que les évangéliques ressentent le besoin de se retrouver, de se connaître, de chercher à se comprendre. Et ce mouvement de l'Alliance évangélique aura aussi son pendant en France. Il est même probable que les évangéliques jouent un rôle dans la création de la Fédération protestante de France, en tout cas c'est sûr pour les églises libres par exemple, mais il est probable aussi que l'Alliance évangélique française a peut-être joué un rôle, ce serait à déterminer encore, dans la création de la Fédération protestante de France. Il n'empêche que depuis les années 1920 et la fondation notamment de l'Institut biblique de Nogent, les évangéliques ont cherché à se regrouper, à se rencontrer un peu plus, à avoir des pôles qui donneraient un peu un sens commun à leur travail. Et dans cette orientation-là, il est évident que le CNEF, fondé dans... qui a émergé, disons, plus particulièrement dans la décennie 2000-2010, eh bien, est aujourd'hui un acteur incontournable de ce mouvement de regroupement du monde évangélique. Alors, nous sommes très reconnaissants d'avoir ce soir son président pour nous présenter le travail du CNEF, présenté ici dans le programme des conférences comme une bannière évangélique, point d'interrogation. Quel est le but du CNEF? Veut-il rassembler tous les évangéliques impérativement? Veut-il être la voix unique des évangéliques? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc, on va avoir une intervention. Étienne Armenot va présenter tout ce travail en y intégrant aussi son propre parcours personnel, puisque les deux se sont mêlés pendant à peu près 50 minutes. Et après quoi, eh bien, comme d'habitude, on vous propose d'avoir un échange entre nous autour de ce qui aura été développé précédemment, de poser vos questions, de faire vos remarques et de ne pas hésiter à intervenir. Voilà. Donc je laisse tout de suite la parole à Étienne Darmenot pour son intervention.
Voilà, chers amis, bonjour, bonsoir plutôt, c'est plutôt plus adapté de dire bonsoir. C'est une joie d'être parmi vous dans une région que je connais assez bien puisque ma mère, toute ma famille maternelle est de Rochegude pour ceux qui connaissent. Et si les familles Chante et Ozil vous disent quelque chose, ce sont les familles de ma maman. Voilà. De création récente, le Conseil national des évangéliques de France a été accueilli simultanément avec enthousiasme par une partie du monde évangélique, avec scepticisme et parfois même méfiance par le monde luthéro-réformé et avec curiosité par beaucoup d'autres. Est-ce une façon pour les évangéliques, en créant un Conseil national, de déployer leur étendard au risque de fracturer le protestantisme comme cela nous a souvent été reproché? Ou est-ce d'abord un moyen pour réunir une famille spirituelle divisée jusqu'à l'émiettement? Pour vous donner une idée, on compte en France pas loin de 50 dénominations évangéliques différentes. Alors, au plan mondial, nous sommes relativement unis parce que vous devez savoir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de dénominations différentes. Je crois que c'est exactement 330 000 dénominations différentes dans le monde. Donc quand je dis diviser jusqu'à l'émiettement, je pense que ce n'est pas excessif. Je vais m'efforcer de répondre à ces questions en quatre temps, en me présentant personnellement, en vous parlant de la genèse du CNEF, parce qu'il y a une histoire avant celle officielle du CNEF. Je voudrais vous parler ensuite de la vision et des projets de ce CNEF. Et enfin, je terminerai par les relations avec les autres chrétiens, qui n'est pas forcément le sujet le plus simple, mais dont j'aimerais quand même vous entretenir. Je vous laisserai le soin de poser des questions à la fin de l'intervention pour aborder certains aspects que je vais volontairement laissé dans l'ombre. Je n'ai rien à cacher, mais je ne peux pas tout dire. Je pense à des questions sur la structuration, sur le financement, sur l'hégémonie dont on pourrait supposer que le CNEF ait envie, ce qui n'est pas le cas en fait, hein, etc. Et donc je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur mon parcours personnel. Et si je devais résumer en deux mots, je vous dirais que je suis à la fois un missionnaire, et je vous expliquerai pourquoi, et soucieux dans mon parcours de l'unité des chrétiens autour d'une foi bien ancrée dans l'Écriture. En fait, j'ai grandi dans une famille baptiste. Mon grand-père était pasteur baptiste. Il a été d'ailleurs pasteur à Saint-Géniès-de-Malgoire. À Saint-Géniès, il n'y a pas d'église baptiste, hein. En fait, pendant la guerre, il était pasteur des églises réformées évangéliques indépendantes parce qu'elles n'avaient pas de pasteur, donc elles se satisfaisaient d'un baptiste pour l'occasion. Et j'ai eu l'occasion, en fait, dans mon propre cheminement, d'aller à l'Armée du Salut. Parce que nous étions à l'époque avec mes parents dans la ville de Calais. Et dans la ville de Calais, il y avait à peu près deux possibilités en matière de culte. Il y avait l'Église réformée de France et il y avait l'Assemblée de Dieu. Et nous avons finalement choisi, enfin nous, mes parents ont choisi d'aller à l'Église réformée de France. Et quand le poste de l'Armée du Salut de Calais a rouvert, avec un certain Guy Delcourt, mes parents m'ont dit « mais va au club ». Alors je crois que c'était à l'époque du jeudi, donc ça veut dire que je suis tout à fait jeune, au club du jeudi, tu verras, c'est bien, ça va t'apporter quelque chose. Et effectivement, j'ai été très intéressé par ce club d'enfants, j'y ai fait mes premiers pas spirituels. Puis quand nous avons déménagé à Strasbourg, j'ai rejoint la fanfare de l'armée du poste de l'armée du salut de Strasbourg. Et dans ce cadre-là, j'ai assisté à une convention de jeunesse à Lavancelles. Et dans la tradition salutiste, il y a eu un appel à la fin de la prédication sur Jonas, demandant de venir au banc des pénitents. Je ne sais pas si vous connaissez les pratiques de l'armée du salut. Et du haut de mes 12 ans, j'ai lutté parce que devant 400 personnes, s'avancer et aller se mettre à genoux devant tous était un effort difficile, mais je l'ai fait. Et je me suis donné au Seigneur ce jour-là. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai ensuite, dans ma soif spirituelle, dévoré beaucoup de biographies missionnaires, les grandes biographies de Charles Studd, champion de Dieu, Adoniram Judson, splendeur de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez ces différentes biographies, et elles m'ont tellement marqué qu'à l'âge de 13 ans, j'avais la conviction que Dieu m'appelait à partir en mission. Et j'ai donc fait une formation agricole jusqu'au BTS pour aller enseigner l'agriculture et par ce biais-là aussi, annoncer l'Évangile dans un pays différent du mien. Avec un problème, ou plutôt deux, c'est que je me suis rendu compte, un, que je connaissais très mal ma Bible, et qu'il était quand même assez prétentieux de vouloir devenir missionnaire si je n'étais pas moi-même bien formé sur le plan biblique. La deuxième chose, c'est qu'en France, en tout cas à l'époque, on apprenait l'agriculture sur des bancs d'école, et si vous n'étiez pas fils d'agriculteur, ce qui était mon cas, vous ne pouviez guère prétendre à une pratique réelle. Et je ne me voyais guère aller enseigner l'agriculture dans un pays que je ne connaissais pas, alors que je ne savais pas pratiquer l'agriculture dans mon pays. Tout cela m'a amené à faire une formation théologique à Emmaüs en Suisse, puis à Vaux-sur-Seine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens dans mon pays qui étaient missionnaires. Et je me suis dit, mais peut-être que je devrais réfléchir, puisque nous le savons, l'ordre, c'est de commencer par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et avec un séjour au Cameroun pendant 2 ans, la conviction s'est faite très nette que je devais être missionnaire dans mon propre pays. Et c'est ainsi que je vis, toujours aujourd'hui, mon engagement pour le Seigneur. Je suis devenu pasteur à l'issue de ces études à Carmaux et Albi, des pays qui disent peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Et j'ai développé très tôt un souci pour l'unité des églises évangéliques, tout simplement parce que mes prédécesseurs l'avaient déjà entamé. Et donc j'ai pu, à la fois en étant pasteur de l'Église libre et de l'Église baptiste, développer une collaboration très étroite avec l'Assemblée de Dieu, à tel point que nous avons fait des cultes en commun. Mieux encore, nous avons parfois fermé un lieu de culte pour se réunir dans l'autre. Et j'ai appris là à travailler. Nous avons monté une chorale ensemble, nous avons fait l'évangélisation au niveau du département ensemble. Et j'ai appris là non seulement à développer les relations entre évangéliques, mais aussi à avoir des relations à géométrie variable selon les partenaires chrétiens avec lesquels j'étais. J'ai appris à ne pas être dans le tout et le rien, à ne pas penser qu'il n'y avait que ceux qui professaient la foi de la même manière que moi qui forcément étaient les seuls à connaître le Seigneur. J'aimerais enfin vous dire quelques mots sur la vision qui m'anime. C'est toujours personnel, mais on va toucher là à des choses plus fondamentales. Et je vous transmets là quelque chose qui m'a profondément touché dans ma propre méditation de l'Écriture, à savoir Jésus qui regarde les foules, qui en a compassion parce qu'il a conscience qu'elles sont lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et je vous lis une chose que j'ai livrée à la première convention du Conseil national des évangéliques de France et qui concerne ce passage précisément. Et que j'ai intitulé, c'est l'ensemble d'une intervention assez longue, « Ouvrir les yeux pour aimer ». Très concrètement, avant de joindre les mains pour prier, il faut ouvrir les yeux pour aimer. Or, à baisser nos têtes et à fermer les yeux pour intercéder, nous oublions parfois de porter un regard lucide sur notre société et notre génération. Et à vouloir évangéliser nos contemporains, nous omettons souvent de comprendre de quoi leur quotidien est fait. Non seulement pour apprendre leur langage, mais aussi et surtout pour apprendre à les voir avec le regard du Seigneur. Ne nous arrive-t-il pas dans notre zèle pour le Seigneur de juger trop sévèrement notre génération ? Certes, elle fait des choix de vie coupables, tourne résolument le dos à Dieu et se complaît dans la vanité. Mais est-ce tout ce qu'il y a à dire ? Notre compassion est-elle si mesurée qu'elle s'arrête à la porte de nos églises ? Avons-nous donc un Seigneur si fatigué qu'il ne puisse regarder notre peuple comme il a autrefois regardé le sien ? Permettez-moi d'en douter et de vous proposer un instant de regarder au-delà de ce qui saute aux yeux. La société dans laquelle nous vivons me fait penser à une vaste et superbe salle de spectacle. Les moyens déployés pour éclairer et sonoriser la scène sont impressionnants. Les décors sont souvent géniaux et les acteurs plutôt convaincants. Enfin, j'ai écrit ça il y a quelques années, aujourd'hui je ne sais pas si je le dirai. Mais tout cela n'est qu'un vaste jeu dans lequel il existe une règle implicite. Pour être sous les feux des projecteurs, il faut être jeune, beau et libre. C'est-à-dire, en fait, sans trop de principes. Pour tous les autres, il reste au mieux les fauteuils de la salle pour assister impuissants à l'intrigue, forte, banale ou sordide, selon les cas. Au pire, les coulisses pour se voiler la face devant la réalité factice ou peut-être cachées en raison du triste spectacle que notre indigence ou nos choix représentent. Une chose est sûre, notre génération est prisonnière de cette vaine comédie qui, tout en la distrayant, l'aide à masquer ou à oublier ses illusions perdues. Ne voyons-nous pas derrière nos multiples écrans et nos nombreux magazines en papier glacé la terrible solitude affective de nos concitoyens ? Jeunes, beaux et libres d'agir à leur guise, ils découvrent, passés les temps insouciants de la jeunesse, que tout cela ne suffit pas à bâtir une vie qui a du sens, et surtout qu'ils ont sacrifié sur l'autel de l'éphémère les années les plus propices à l'établissement d'une vie affective durable. Que leur reste-t-il à 40 ans ? La fuite en avant d'une existence qui se disperse dans des rencontres fortuites et sans lendemain, ou la fréquentation anxieuse de sites de rencontres. Ils ne sont plus tout à fait jeunes, pas toujours beaux, et surtout la liberté tant chérie n'alimente plus leur joie de vivre. Ils seraient alors prêts à payer cher pour être moins libres, mais plus aimés. Ce qu'ils mesurent aussi, s'ils veulent bien y réfléchir quelques instants, c'est que notre société permissive n'a pas seulement mis la joie de vivre au rang des paillettes du faux semblant du monde, des people ou de la réalité, la télé-réalité, elle a aussi entraîné un cortège de mots que nous préférons cacher. Qui osera affirmer aujourd'hui que la libération sexuelle a fait plus de dégâts affectifs qu'elle n'a épanoui de vie ? Je pense ici, mes amis, à l'accroissement considérable des foyers monoparentaux d'une part et au nombre indécent d'enfants maltraités d'autre part. Ne seraient-ils pas devenus les uns et les autres la veuve et l'orphelin de nos sociétés occidentales dont il faudrait prendre la défense ? Qui osera dire que la violence qui explose dans nos banlieues est le fruit de nos égoïsmes coupables qui ont rejeté dans des zones de non-droit des populations défavorisées ? Qui ne voit le culte du veau d'or, que le culte du veau d'or ne manque ni d'adeptes, ni de temples, ni de victimes. Je pense ici aussi bien aux spéculateurs fous, aux temples de la consommation que sont nos galeries marchandes, qu'aux cadras et aux quincas qui, en pleine force de l'âge, sacrifient leur santé et leur famille sur l'autel de la performance professionnelle. Et qui pourra dire les lendemains que nos sociétés occidentales se préparent en cédant à la pression d'un lobby peu nombreux mais puissant pour faire de l'homosexualité et plus largement de la perversion des conduites sexuelles des normes acceptables. Je disais ça en 2012. J'arrête ici ma litanie, disais-je. Oui, mes chers amis, nous vivons au milieu d'une génération pécheresse, mais nous ne sommes pas les premiers, si j'en crois l'Écriture. Et surtout, notre génération n'est pas que cela. Elle est aussi une génération lassée et abattue, qui s'est donné beaucoup de chefs, mais dont aucun ne prend soin d'elle. Le risque qu'elle court, c'est de céder aux sirènes, non pas du bon berger, mais de chefs plus populistes et plus autoritaires les uns que les autres. L'amour que Dieu verse en nos cœurs par l'Esprit ne devrait pas nous permettre de l'oublier. Et c'est ce message que j'essaye de porter au sein du Conseil national des évangéliques de France. Mais permettez-moi maintenant d'expliquer, après vous avoir un peu introduit à mon propre parcours, comment ce CNEF est né. Et j'aimerais ici dire tout de suite qu'il est en fait l'héritier de structures plus anciennes, qui s'appelle, et Franck Belloire l'a bien décrit tout à l'heure, l'Alliance évangélique. Ce qu'il n'a pas dit, qui est aussi très net, la Fédération évangélique de France. Ce qui s'est produit, c'est à peu près, je vais essayer de vous raconter les choses, j'en étais l'acteur pour une partie seulement. L'Alliance évangélique de France réunissait des individus, des œuvres, quelques églises et avait un rayonnement certain. Vous aviez de l'autre côté la Fédération évangélique de France, créée en 1969, qui a voulu en quelque sorte permettre aux évangéliques de se réunir autour d'une confession de foi claire, mais qui, malheureusement, n'a pas réussi à rassembler largement, puisqu'elle n'a jamais dépassé 20 à 25% des évangéliques. Et s'est produit dans cette histoire une chose malheureuse, c'est que la Fédération évangélique de France et les Assemblées de Dieu sont rentrées en conflit sévère à tel point que les assemblées de Dieu ont quitté, ont demandé à être retirées de l'annuaire évangélique. Et donc, il y a eu une fracture relativement nette dans le monde évangélique entre, d'un côté, le pentecôtisme, de l'autre, le monde évangélique non pentecôtiste. Et puis, une partie du monde évangélique, comme Franck l'a dit tout à l'heure, réunie, généralement plus anciens, réunis au sein de la Fédération protestante, les églises libres, les églises baptistes, les églises réformées évangéliques, etc. L'Alliance évangélique et la Fédération évangélique de France ont d'abord, en interne, traité de certains contentieux qu'elles avaient entre elles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec un souci, comment faire dans une société où il y a si peu de croyants, où l'Évangile est si méconnu, pour ne pas rester divisé au point que notre voix soit inaudible? Comment faire pour que les évangéliques soient à la fois plus visibles et plus lisibles? Je vous rappelle que c'est les années où nous avons eu droit à une couverture dans le Nouvel Observateur, où vous aviez les évangéliques, la secte à la conquête du monde, et vous aviez George Bush en photo sur une croix, enfin, devant une croix, il n'était pas crucifié, hein, devant une croix. Et c'était, en gros, le type de traitement, quand les journalistes s'intéressaient aux évangéliques, qui leur était réservé. L'Alliance évangélique et la Fédération évangélique de France ont donc décidé de convoquer les 50 responsables d'union, les fameuses dénominations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je faisais partie des 50, puisque j'étais alors secrétaire général de la Fédération des églises évangéliques baptistes. Et il s'est produit une chose inattendue qui ressemble à quelque chose qu'on ne vit pas souvent dans sa vie, un moment où le voile se soulève, où le Saint-Esprit souffle. C'est le président de la Fédération évangélique de France, le pasteur Jacques Mouillon, si quelques-uns le connaissent, s'est levé spontanément, alors que ce n'était pas préparé, en disant, en se tournant vers les assemblées de Dieu, en disant « Je voudrais ici demander pardon pour tout ce que nous, Fédération évangélique de France, avons écrit et dit sur vous et qui vous a blessé. » Et il y a eu un moment de silence dans la salle. Et Michel Fauré, responsable, l'un des responsables de la délégation des Assemblées de Dieu, s'est levé et avec beaucoup de sagesse a répondu « Nous entendons la demande de pardon, mais je ne me crois pas autorisé à y apporter une réponse aujourd'hui parce qu'il faut que je retourne vers mes collègues, il faut que je leur parle de cette demande et j'aimerais non pas réagir de façon affective, mais de façon réfléchie. D'autant qu'il y a eu beaucoup de choses écrites entre nous. Et c'est ainsi que nous nous sommes séparés. Et nous sommes donné rendez-vous, nous sommes là en janvier 2001, nous sommes donné rendez-vous en juin 2001 pour un temps de jeûne et de prière. Et nous savions tous que cette demande de pardon était dans la balance. Et nous nous demandions tous ce qu'il allait advenir. Et quand nous avons donc pu nous retrouver, Michel Fauré, le responsable des Assemblées de Dieu, s'est levé et a dit « J'ai transmis à l'ensemble de mes collègues rassemblés votre demande de pardon et j'ai la joie de vous annoncer qu'ils se sont prononcés à l'unanimité pour recevoir votre demande de pardon, pour l'accueillir, mais aussi pour vous demander pardon, parce que nous savons très bien que dans notre façon de réagir, nous n'avons pas toujours été chrétiens. » Et c'est, au fond, à côté de tout le travail qui a été fait, c'est au fond, je crois, le véritable moment qui a cimenté la possibilité pour le Conseil national des évangéliques de France d'exister. Évidemment, je résume et je vous dis simplement qu'on est en 2001. Finalement, Le Conseil national des évangéliques de France va naître en juin 2010 au plan juridique. Entre-temps, la Fédération évangélique de France a dit « Toutes les missions que nous portons aujourd'hui et qui représentent des missions d'intérêt général pour le monde évangélique, nous les remettons dans la corbeille de la mariée. » Et l'Alliance évangélique de France, elle, a fait autre chose. Elle a dit « Nous demandons à ce que... » Enfin, nous nous transformons en Conseil national des évangéliques de France de telle sorte que vous récupériez l'ensemble des missions, des fonds que nous représentons jusqu'alors. Alors, inutile de vous dire que pour aboutir à ça, il y a eu quelques moments de friction. Vous savez, mourir est toujours difficile. Mais c'est ainsi que le Conseil national des évangéliques de France est né, et la dernière partie, je n'en étais pas témoin parce que j'avais quitté mon ministère de secrétaire général de la Fédération Baptiste et j'avais rejoint l'Institut biblique de Nogent, où je suis toujours professeur. Et, à ma grande surprise, les collègues sont venus me trouver, me disant « Étienne, une de nos questions maintenant que le CNEF, nous savons qu'il va naître, c'est d'avoir un président. Et nous avons pensé à toi. » J'avoue que j'étais très surpris, mais c'est quelque chose qui me poursuit parce que, d'une certaine manière, j'ai toujours inauguré des choses nouvelles. Quand j'ai été pasteur à Albi et Carmo, d'une église libre et d'une église baptiste en même temps, j'ai inauguré un nouveau poste double qui n'existait pas. Quand je suis devenu secrétaire général de ma fédération, j'ai inauguré un poste salarié qui n'existait pas. Et là, j'ai inauguré une présidence d'un organisme qui venait de naître, mais qui, vous le comprenez, correspondait aussi à mon souci que les évangéliques s'unissent pour apporter l'Évangile, pour être témoins du Seigneur. J'aimerais vous parler maintenant un instant de la vision du CNEF et je voudrais vous lire la déclaration finale de l'Assemblée générale constitutive, le 15 juin 2010, pour que vous compreniez l'élément moteur, l'élément fédérateur. Nous avons dit ceci, ce n'est qu'un extrait. Nous affirmons que l'Évangile est le message permanent de Dieu au monde, qu'il répond au besoin le plus essentiel de l'être humain et qu'il est de notre responsabilité de le faire connaître. C'est pourquoi nous voulons nous efforcer de le vivre, de le défendre et de le proclamer en toute clarté dans la fidélité à la Bible, parole de Dieu. Le Christ appelle les hommes et les femmes d'aujourd'hui à un véritable changement de vie. Conscient que d'autres chrétiens sont animés du même désir, nous désirons témoigner joyeusement de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et contribuer ainsi à la croissance des églises actuelles et à l'implantation de nouvelles églises. En fait, le Conseil national des évangéliques de France s'est constitué comme une plateforme pour renforcer les liens entre ses membres et exprimer l'unité donnée par Jésus-Christ au plan national, mais aussi au plan régional et au plan local. Mais le but supérieur du Conseil national des évangéliques de France, c'est de participer à la mission de Dieu en faveur du salut du monde. De telle sorte que, devant l'immensité des choses à faire, notre souci, c'est toujours de nous dire, est-ce que ce que nous allons faire va contribuer d'une manière ou d'une autre à l'annonce de l'évangile en France ou pas ? Si quelqu'un d'autre peut le faire et que ça ne contribue pas à l'annonce de l'Évangile, alors ce n'est pas notre responsabilité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites pour annoncer l'Évangile ? Vous n'êtes pas une église. C'est exact. Par contre, nous sommes un ensemble qui comprend des unions d'églises, 30, des œuvres, plus de 150, et nous avons, à cause de la mise en commun de nos capacités, de notre énergie, de notre réflexion, nous avons développé des outils pour aider les unions d'église et les œuvres à participer à l'évangélisation de la France. Si vous me permettez un rapide tableau de notre pays. On estime qu'il y a en France 600 000 évangéliques. Alors, chose curieuse, aujourd'hui apparaît un phénomène nouveau, c'est qu'il existe des évangéliques non pratiquants. C'est-à-dire que sur 600 000 évangéliques, d'après des sondages qui sont faits, bon, on sait ce que valent les sondages, mais vous demandez aux gens s'ils sont évangéliques. S'ils vous répondent oui, vous mettez donc qu'ils sont évangéliques. Après, vous leur demandez, mais est-ce que vous avez une pratique religieuse ? Et d'un point de vue de la sociologie, on parle de pratiquant quand une personne va au culte une fois par mois. Hein, entendons-nous bien. Eh bien, vous avez un quart de ces personnes qui vous disent non. Qui sont-ils ? Ils sont nos enfants, les enfants de nos familles, les petits-enfants de nos familles, qui parfois ont perdu le contact avec la communauté chrétienne, mais néanmoins portent toujours certaines valeurs et pensent que si on leur demande, ils sont évangéliques. Mon propre fils, pour lequel je prie, n'est pas converti. Mais si quelqu'un s'en prend au Seigneur ou aux évangéliques, il serait prêt à les défendre. Mais ça ne le fait pas aller à l'église. Et il ne s'est toujours pas tourné vers le Seigneur. C'est des gens comme ça. Bon, 600 000 sur 60 millions de personnes, 65. Alors, je n'ai pas l'outrecuidance de penser qu'il n'y a des chrétiens que chez les évangéliques. Hein ? De la même manière que tous les évangéliques ne sont pas forcément au Seigneur, il y a aussi des gens qui sont au Seigneur en dehors de ce monde-là. Mais vu la pratique religieuse aujourd'hui, en tout cas dans le christianisme, je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller, mais est-ce qu'il y a un million et demi, 2 millions de gens qui peut-être, d'une façon ou d'une autre, connaissent le Seigneur de façon personnelle ? Mais ça en laisse 63 millions. Et je me suis, en tant que secrétaire général baptiste, battu parfois avec mes collègues américains en leur disant qu'ils se précipitaient en Ukraine, en Russie, pour faire la mission, en leur disant, mais vous savez, en France, et en me disant, la France n'a plus besoin de l'Évangile, elle l'a déjà entendu. Je disais, non, il y a dans ma génération des quantités de gens qui n'ont même pas pu refuser l'Évangile parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Tout simplement. Il y a un immense travail à faire. Mon collègue Daniel Lichty, dont vous avez peut-être entendu parler, est pris dans un réseau en Europe, en particulier du côté allemand, de développement des églises et d'implantation d'églises nouvelles. Et il a développé une vision qui est devenue la vision du CNEF, qu'on appelle « une pour 10 000 ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en matière de sociologie religieuse, pour toucher à une population de façon correcte, il faudrait qu'il y ait une communauté chrétienne de type évangélique, pour écouter, en tout cas par la foi évangélique, une communauté chrétienne pour 10 000 habitants. Combien en a-t-il aujourd'hui ? Il y a une église pour 30 000 habitants. C'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais on est encore très loin du compte. Alors, ce collègue vous dira, avec raison, pourquoi une église pour 10 000 habitants ? Pour au moins deux raisons. La première, c'est que la meilleure évangélisation, c'est d'amener les gens dans une église vivante, où ils seront accueillis, aimés, où ils entendront le message de l'Évangile, et où ce message de l'Évangile sera incarné. La deuxième chose, dit-il, nous ne pouvons pas bâtir des projets en disant « on va faire 1 million de convertis », comme on l'a fait parfois dans le passé. On a chiffré, on a dit « ça y est, on va avoir tant de convertis ». Il dit tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui convertit. Et ça lui appartient. Nous ne sommes pas maîtres de ces choses-là. Ce dont nous sommes maîtres, c'est de décider d'implanter dans un endroit une communauté chrétienne. Et j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que, quelle que soit votre appréciation des assemblées de Dieu, puisque au milieu du monde évangélique, il y en a qui aiment bien les assemblées de Dieu et d'autres moins, vous devez savoir que c'est le mouvement d'implantation d'église en France qui a été le plus, qui a connu la plus belle réussite. Le monde pentecôtiste, le pentecôtisme arrive en France en 1930. Aujourd'hui, vous avez 700 lieux de culte pentecôtiste en France, à partir de zéro. Alors, on pourrait discuter parce qu'ils ont souvent commencé dans des communautés existantes. Hein. Mais c'est un énorme travail qui a été fait, un énorme maillage. Il n'existe quasiment aucune ville moyenne et aucun département rural où vous ne trouvez pas des assemblées de Dieu. Ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est que ces mêmes assemblées de Dieu ne sont plus aussi dynamiques en termes d'évangélisation qu'elles l'ont été. Et le dynamisme, il faut qu'il reparte. Donc quand nous avons dit une église pour 10 000 habitants, nous avons dit ce n'est pas qu'un slogan, nous voulons vous donner les moyens de le faire. Et donc nous avons quatre outils que nous proposons. Le premier, c'est d'aider les gens à découvrir ce que c'est qu'une implantation d'église, parcours, découverte, implantation. Le deuxième, c'est de former des jeunes pour qu'ils préparent les meilleures années de leur vie à travailler à l'implantation d'une église. On appelle ça un centre de formation régionale pour implanteurs. Et il en existe quatre, je crois, aujourd'hui en France. Puis, nous avons mis au point une séance d'orientation et de formation à l'implantation. À quoi ça sert ? À essayer de discerner qui est vraiment capable d'implanter une église. J'ai croisé beaucoup de missionnaires dans mon propre ministère qui disaient « nous sommes là pour implanter des églises ». Sauf que ces chers frères étaient tout sauf des implanteurs. Ils étaient de bons pasteurs. Mais ils n'avaient pas la capacité, le dynamisme, l'audace d'aller seul à un endroit et de commencer quelque chose à zéro. Ce n'est pas facile, hein. Ça demande un tempérament particulier. Je ne suis pas un évangéliste particulièrement, mais j'ai un collègue belgo-canadien qui a implanté des églises. Il était capable de commencer avec le Beaujolais dans le restaurant pour finir par Jésus-Christ. Moi, j'ai du mal, je ne sais pas le faire. Donc, il y a aussi une capacité à le faire. Et la dernière chose que nous avons mis en place, c'est un master de missiologie en implantation d'église. C'est-à-dire, si nous voulons que l'implantation d'église devienne quelque chose de fort, de vivant, il faut aussi qu'une formation soit donnée. Deuxième projet qui va dans le sens de l'évangélisation, c'est tout le projet autour de « Libre de le dire ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits opuscules. Nous en avons publié 5. Libre de le dire à l'école, à l'université, dans l'espace public, au travail, à l'église. Bizarre, hein ? Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi nous avons pensé à développer cette campagne, qui est une campagne d'abord de vulgarisation de la législation sur la liberté d'expression, à destination du public chrétien et aussi à destination des élus, parce que, comme nous l'observons, la liberté d'expression garantie par la laïcité est de plus en plus battue en brèche. Et si nous n'y prenons pas garde, la liberté d'expression qui a toujours été chère au cœur des évangéliques dans leur histoire, va se rétrécir. Je vous donne un seul exemple. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était peut-être une posture électorale, mais a développé une proposition de loi pour pénaliser la prédication subversive. Évidemment, elle visait les salafistes, Le problème, c'est qu'il n'est pas question qu'un projet de loi discrimine sur une religion, sur des adeptes d'une religion, les comportements. Dans cette proposition de loi est écrit que toute prédication qui oserait mettre des valeurs au-dessus des valeurs de la République devrait être sanctionnée. Je ne sais pas si vous mesurez les conséquences. Alors, quand nous en avons discuté avec le responsable du bureau central des cultes, il nous a dit « oui, mais ça sont des postures électorales ». Je lui ai dit « écoutez, mon souci, c'est qu'une majorité de circonstances finira par voter des lois de circonstances. Et que la liberté d'expression finira par être menacée. Devrons-nous demain, comme ça a été le cas au XIXe siècle, nous incliner devant Sainte République? Vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Alors, pourquoi libre à l'Église ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a dans nos églises de l'autocensure. À cause du climat global, il y a des sujets que nous n'osons plus aborder dans nos églises. De peur de nous retrouver devant les tribunaux. Est-il juste qu'un jour nous soyons obligés de trier dans la parole de Dieu et de nous interdire de parler de sujets ? Alors je ne dis pas de parler n'importe comment, il faut toujours faire preuve de tact, mais d'aborder certains sujets, simplement parce qu'ils ne sont plus politiquement corrects. Ça, c'est un aspect de la question. L'autre, c'est que certains prédicateurs aujourd'hui sont très imprudents dans leur façon de faire. Ils usent de la liberté que leur donne le lieu de culte, mais après, ils mettent sur Internet, sans aucune forme de filtre, des prédications qui, si elles sont audibles dans un auditoire chrétiens peuvent donner lieu à des procès extrêmement négatifs sur le plan médiatique parce que les paroles n'ont pas été mesurées. Vous pourrez toujours me poser des questions ensuite. Deux autres projets. Je ne vous brosse pas tout le tableau. Nous nous sommes dit qu'il était important que les évangéliques aient un accès aux parlementaires, députés et sénateurs. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui votent les lois. Et que dans la mécanique républicaine, si vous n'êtes pas là au bon moment, eh bien, alors vous pesez de toute façon pas forcément grand-chose, mais si vous n'êtes pas là au bon moment, vous ne pesez rien du tout. Donc il y a tout un travail à faire, de relations pour faire connaître les évangéliques, ça c'est un aspect, d'informations sur ce que pensent et croient les évangéliques, sur un certain nombre de sujets de société, mais aussi un travail pastoral, parce que ces hommes et ces femmes sont aussi des hommes et des femmes que le Seigneur veut toucher. Et si personne n'est présent pour témoigner de l'Évangile, si personne n'est envoyé pour le faire, comment entendront-ils ? Nous avons notre directeur de la communication, Thierry Le Gall, qui aujourd'hui consacre la moitié de son temps à rencontrer des sénateurs et des députés dans avec les trois missions que je viens de vous développer. Et il observe plusieurs choses. La première, c'est que beaucoup de députés lui disent « Monsieur le pasteur, donnez-nous des arguments sur les questions de bioéthique, sur les questions d'euthanasie, parce que nous n'avons pas le temps de réfléchir à toutes ces questions et on nous demande de nous prononcer. » Et je dois dire que je suis très surpris parce que j'imaginais qu'ils avaient autour d'eux quand même un certain nombre d'experts, de gens qui réfléchissent. Mais Thierry Le Gall nous rend compte d'une sorte de désarroi de beaucoup devant des questions majeures pour lesquelles ils ne sont pas armés. La deuxième chose, c'est que il n'est pas rare que l'entretien se termine par un entretien spirituel, dont évidemment Thierry Le Gall ne nous donne pas le contenu, parce que c'est un contenu pastoral. Parce qu'il y a aussi beaucoup de désarroi chez nos élus de la nation devant toutes les questions, les difficultés, le terrorisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ce sont des êtres de chair qui sont aussi troublés par ce qui se passe, qui ont des questions. Et être là, pouvoir parler de Dieu, dire qu'on prie pour eux, est une chose importante. Et puis, vous serez peut-être surpris, il y en a qui ont dit à Thierry Le Gall, nous voudrions, monsieur le pasteur, que vous organisiez une étude biblique pour les parlementaires. Et il a eu la première étude biblique avec quelques parlementaires au 48 rue de Lille, dans Paris. Alors, ils ont dit, on a un programme très chargé, on ne pourra pas venir très souvent, mais si vous pouviez organiser ça 3 fois dans l'année, nous serions très reconnaissants. Alors, vous serez, je crois que je peux le dire, mais c'est assez étonnant, une de celles qui est venue à ce rendez-vous, c'est une de celles dont les médias ont parlé, Sylvia Andrieux, parce qu'elle a été condamnée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, elle a été condamnée pour des questions de malversation. J'imagine que ça la tracasse, en tout cas, elle est venue à ce rendez-vous, à cette étude biblique. Il y a des besoins. Hein. Et vous savez qu'on est un des derniers pays, d'ailleurs, à faire ça, parce qu'autour de nous, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne ou de la Suisse, par exemple, il y a des aumôniers protestants, des aumôniers évangéliques, qui travaillent dans les parlements nationaux. Pardon ? Madagascar aussi. Je termine mon propos en vous parlant de la question des relations du Conseil national des évangéliques de France avec les autres chrétiens. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire, répondre au fond à une question qu'a suggérée Franck Belloir dans son introduction. Le CNEF aujourd'hui rassemble 70% à peu près des évangéliques. Nous n'avons pas la prétention de rassembler 100%. Je pense que entre le fait qu'on est évangélique, qu'on est français, je pense qu'il y a quelques difficultés à rassembler tout le monde. Mais de toute façon, le CNEF n'a pas le monopole de ce qu'est un évangélique et ne prétend pas l'avoir. Il veut travailler sur un fondement biblique, théologique solide, mais il n'a pas la prétention que ceux qui ne le rejoignent pas, ne voudraient pas le rejoindre, ne sont pas évangéliques. Hein ? Et nous n'avons pas non plus la prétention de dire que nous parlons au nom de tout, absolument tous les évangéliques, et nous nous efforçons autant que possible. Alors parfois, il arrive que nous ne soyons pas assez prudents, mais que nous parlions au nom du CNEF et non pas au nom des protestants évangéliques. Parce que sur un certain nombre de questions, de toute façon, les protestants évangéliques ne sont pas forcément complètement d'accord. Globalement, nous le sommes, mais il y a bien des sujets de société. Je ne vous en donne qu'un seul, je ne suis pas sûr que si on parlait d'économie ce soir, on soit tous d'accord. Hein. Voilà. J'ai pris un sujet pas trop compliqué, enfin compliqué techniquement, mais pas trop sensible, me semble-t-il. Par ailleurs, je reviens à la question de la relation avec les autres chrétiens. Nous n'avons pas non plus la prétention de penser que seuls les évangéliques sont des chrétiens. Ceci étant, notre arrivée sur la scène protestante n'a pas été simple pour la Fédération protestante de France, présente depuis 1905, avec l'habitude d'un certain monopole de ce point de vue, à un moment en plus où son président était un évangélique, Claude Batty, ce qui a rendu les relations relativement complexes. Et ce qui n'a rien arrangé, c'est que la décision de l'Église protestante unie, de son synode, d'ouvrir la possibilité de bénédiction des mariages de personnes de même sexe, a crisper les relations parce que il y a au sein de la Fédération protestante un engagement d'intercommunion. C'est-à-dire que si vous êtes membre de cette fédération, vous vous engagez à ce que tout autre membre de cette même fédération, s'il vient dans votre église, puisse partager la scène, le repas du Seigneur. Et c'était une des questions sur lesquelles un certain nombre d'évangéliques, à l'intérieur de la Fédération protestante et à l'extérieur de la Fédération protestante, ont toujours exprimé des réserves. En disant relation, collaboration sur un certain nombre de choses, oui, intercommunion, dans la mesure où nous ne professons pas la même foi que certains autour de la table de la Fédération protestante affichent un pluralisme théologique assumé, le fait de partager le même repas, n'est-ce pas une forme d'hypocrisie ? Voilà. Alors, la décision de l'Église protestante unie n'a fait que raviver cette question qui était là. Même si je sais bien que dans la Fédération protestante, il n'y a pas que l'Église protestante unie, sauf qu'elle est faite pour un tiers de l'Église protestante unie, pour un autre tiers de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine et pour un autre tiers des évangéliques. Actuellement, la Fédération protestante de France est en pleine discussion pour éventuellement abandonner cette nécessité d'intercommunion. Si les choses arrivent à leur terme, ça se fera lors de l'Assemblée générale de fin janvier 2017, ça pourrait ouvrir d'autres possibilités. Parce que c'est une chose de dire que nous collaborons jusqu'à nous reconnaître pleinement unis parce que nous avons une même confession de foi, une même déclaration de foi. C'est une autre chose de dire nous avons un héritage protestant commun. Sur certaines questions de société, en particulier liées à la représentation officielle, la laïcité, la liberté d'expression, nous pouvons nous donner la main d'association, mais ça ne nous oblige pas à une intercommunion. Donc voilà, pour l'instant, si vous voulez, on est dans une période d'attente. Du côté de l'Église catholique. Alors, le monde évangélique, pendant très longtemps, a été très anticatholique. Il faut dire que l'Église en question le lui rendait bien. Hein ? Mon grand-père, pasteur baptiste, lui-même venant du catholicisme, me racontait comment, avant Vatican II, quand il lui arrivait de donner une Bible ou un évangile à quelqu'un du village où était le pasteur, que le prêtre s'empresse de lui retirer et de lui interdire de lire la Bible. Donc, on oublie peut-être ce passé, mais ça n'a pas toujours été très, très tendre. Hein. Il est vrai que Vatican II a amené une évolution relativement importante, puisque l'Église catholique a désormais non seulement autorisé, mais encouragé la lecture de la Bible. Et puis, il y a une autre chose qui s'est produite avec l'Église catholique, c'est que le mouvement charismatique du début des années 70, qui a été un mouvement interconfessionnel, a traversé l'Église catholique, l'Église réformée, l'Église luthérienne, les Églises baptistes, à tel point que, étudiant, j'ai fait partie d'un groupe dans lequel nous lisions la Bible ensemble, prions ensemble, alors qu'il y avait dans ce groupe des catholiques, des réformés, des évangéliques comme moi, et nous étions simplement unis autour de la Bible. Autre chose qui s'est produit avec l'Église catholique, c'est que si vous êtes très attentif, il y a de plus en plus de laïcs qui interviennent dans l'Église catholique, ce qu'on appelle des diacres. Pourquoi ? Ben parce que le clergé est tellement âgé et il y a si peu de vocations que le clergé n'arrive plus à faire face. De telle sorte que vous avez en face de vous une église parfois de laïcs, entre guillemets, qui n'a pas du tout la même relation avec vous que le clergé, en tout cas le clergé âgé. Et enfin, dernière chose qui a aussi changé la donne, c'est que l'Église catholique et les évangéliques se retrouvent parfois sur certains combats. en matière d'éthique. Et se rendre compte que, même si, il ne faut pas être naïf, hein, ce n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, théologiquement, sur la famille, sur la préservation de la vie, etc., il y a bien des choses sur lesquelles nous pouvons faire front commun au nom d'un certain, une certaine compréhension chrétienne. Du coup, les catholiques et les évangéliques ont commencé à discuter ensemble et l'Alliance évangélique a récupéré ce travail et, puisque l'Alliance évangélique s'est transformée en Conseil national des évangéliques de France, nous avons aussi lancé des discussions, enfin, nous avons poursuivi les discussions et je vous annonce, ce n'est pas encore publié, que nous allons publier un livre catholique évangélique qui va s'intituler, alors le titre n'est pas encore Conversation entre évangélique et catholique sur la question de l'évangélisation, ça c'est pas le titre final, et nous avons quatre sujets, l'évangélisation des apôtres aujourd'hui, ça c'est un panorama. Un chrétien est-il nécessairement un converti? L'homme a-t-il besoin d'être sauvé? Le baptême est-il un obstacle pour l'évangélisation en commun? Et nous essayons d'explorer ces questions. Je voudrais juste vous rendre attentif à une réalité étonnante en France. Il y a bien des jeunes prêtres qui aujourd'hui s'inspire des grandes figures évangéliques américaines pour faire leur évangélisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la paroisse Confluence à Lyon avec le prêtre David Gréa, qui a un groupe qui s'appelle Glorious. Ça ne vous dit rien? Alors vous taperez sur YouTube Glorious et vous irez voir leurs concerts et vous rendrez compte que évidemment, avec un habillement catholique, c'est une forme d'office qui ressemble beaucoup à des offices évangéliques. À tel point qu'à Lyon, d'ailleurs, de jeunes évangéliques vont désormais dans cette paroisse, qui est fréquentée lors de la messe par 1000 personnes. Et ce n'est pas un phénomène unique. Hein. Il y a un souci d'évangélisation chez une jeune génération dans l'Église catholique, extrêmement forte. Et nous devrions y être attentifs. Le Seigneur est annoncé, je le crois. Je ne suis pas toujours sûr que tout ce qui est annoncé avec soit toujours réjouissant, parce que nous gardons des différences sur le plan de la compréhension de l'Église et du ministère très forte, mais le Seigneur est annoncé. Je termine en disant le CNEF ne veut pas dresser l'étendard d'une identité évangélique en mal de reconnaissance. En tout cas, c'est mon souci. Il y a quelques évangéliques qui voudraient absolument devenir des notables de la religion. Que Dieu nous en garde. Ce n'est pas un idéal. Ce que je pense est nécessaire, c'est que nous continuions à proclamer paisiblement la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans une société en déroute. Et cela me fait mal au cœur, mes amis, d'entendre en circulant que certains évangéliques n'ont pour seule devise que de répéter ce qu'ils entendent dans les parties des extrêmes, c'est-à-dire les étrangers dehors. Je ne suis pas sûr que ce soit ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il faut annoncer l'Évangile avec audace et humilité, conviction et tact. J'étais dans le bureau d'un adjoint au maire de ma ville, qui est un réformé évangélique, qui me disait, Monsieur Lermeneau, avec le maire, nous savons une chose. Quand nous facilitons l'implantation d'une église évangélique dans un quartier difficile, le quartier s'apaise et l'islamisme recule. C'est pourquoi, très volontairement, nous faisons tout pour que les églises évangéliques viennent s'implanter dans le quartier des Baconnets, qui est en fait un quartier socialement problématique dans la ville où j'habite. Je vous remercie.
Bien, alors merci Étienne pour ce parcours personnel et aussi pour cette découverte du Conseil national des évangéliques de France qui nous permet de connaître un peu mieux évidemment cette nouvelle institution, son histoire mais aussi ses orientations actuelles avec cet accent très prononcé, tu l'as répété plusieurs fois, hein, sur l'évangélisation. Alors je suppose que cette intervention suscite des questions, des remarques, des réactions. Je vous propose donc tout de suite hein, de vous passer la parole et puis de se donner donc un temps d'échange pendant encore une bonne vingtaine de minutes. Jonathan, ce micro, c'est pour faire passer, c'est... Ouais, c'est ça. Il faut appuyer quelque part pour qu'il fonctionne ?
Non, il fonctionne.
D'accord. Oui, le micro ou ça ira ?
Je ne sais pas, on va
voir. Oui, je pense que ça va aller.
J'aurais peut-être une question un peu périphérique à vous poser.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que dans notre société française, qui est un peu formatée sur le modèle de la Révolution française, la laïcité, dont on nous rabat les oreilles, devient une nouvelle religion ?
Si, très nettement. Je suis, en tant que président du CNEF, auditionné une fois par an par l'Observatoire de la laïcité. Cet observatoire qui est auprès du Premier ministre et qui a pour président Jean-Louis Bianco, qui est un ancien ministre de Mitterrand. Et j'ai abordé cette question la toute première fois. J'ai dit qu'on était en train de faire de la laïcité une valeur, à tel point qu'on se demandait, et je le disais sous forme d'une boutade, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression qu'on veut nous faire ajouter liberté, égalité, fraternité, laïcité. Or, j'ai appris ensuite qu'il y a eu des projets de loi dans ce sens, ce que je ne savais pas. Et effectivement, le problème, c'est qu'à faire de la laïcité une valeur, on se trompe. La laïcité n'est pas une valeur. La laïcité est un cadre dans lequel, juridiquement, on organise la liberté des cultes qui sont à la fois libérés de l'ingérence de l'État dans leurs affaires. Je vous rappelle que le concordat napoléonien était une instrumentalisation de la religion. Parce que en reconnaissant quatre cultes, c'est-à-dire catholiques, réformés, confession d'Augsbourg, c'est-à-dire luthériens et israélites, d'abord, on mettait de côté tous les autres cultes, alors qu'en France, il y avait déjà des mennonites, il y avait des quakers, il y avait des méthodistes, et tout cela, on les a ignorés, et un peu plus tard, il y a eu des baptistes. Le concordat visait à utiliser la religion pour faire la paix. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? Qu'on va utiliser un islam de France pour faire la paix en France. Pour moi, on revient au concordat. Donc, la laïcité nous a défait de cette volonté hégémonique du politique sur le religieux, mais aussi à couper le cordon entre la volonté, en particulier de l'Église catholique à l'époque, de légiférer, ou plutôt d'influencer le pouvoir. Donc ce n'est qu'un cadre. C'est un cadre de liberté. En faire une valeur, c'est se tromper. Or, dans les débats que j'ai eus, il m'a été répondu, mais si la laïcité ne surplombe pas les religions, alors elle n'est rien. Et oui, quelque chose qui surplombe, qui est transcendant, ça s'appelle une religion. Et je pense que, et là nous sommes en train d'arriver au bout d'un processus, comment faire tenir une morale sans Dieu ? Au départ, quand on a voulu totalement dissocier la morale de l'inspiration chrétienne, ça a tenu, parce qu'il y avait encore bien des réflexes et des valeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus ce contenu, Et donc il y a une dérive complète entre deux mondes différents. Et Jacques Buchol nous disait l'autre jour, ancien doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine, il nous disait « Les chrétiens se trompent. Notre monde n'a pas perdu ses valeurs. Il en a d'autres. Il en a d'autres complètement différentes des valeurs chrétiennes. » Et il dit « Quelle est la valeur de notre monde ? C'est la liberté absolutisée et idolâtrée. Au nom de la liberté, tout est possible. » Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce sujet, mais oui, je réponds oui, malheureusement, parce que nos hommes politiques, beaucoup de nos hommes politiques n'ont plus rien à dire. Il ne leur reste que la laïcité comme religion, pour essayer de faire barrage à ce qu'ils voient comme danger dans la société. Oui ?
Est-ce que justement, en créant un organe qui est représentatif de l'ensemble des chrétiens évangéliques, comme vous l'êtes au niveau de l'État, vous ne livrez pas à l'État un instrument justement pour utiliser la religion dans l'autre sens et devenir un moyen de l'État de superviser le cadre religieux et de devenir aussi responsable de ceux qui en font partie et ceux qui en sont exclus, donc qui risqueraient d'être non pas au bénéfice de l'État et de la religion.
Alors, le risque existe, la première chose. Donc je ne dirai pas le contraire. Et je vais vous donner un exemple, ce qui veut dire qu'il faut garder absolument sa liberté dans ce type d'organisation et que c'est un combat. Quand j'étais pendant 8 ans secrétaire du conseil de la Fédération protestante de France, que je connais très bien, il n'était pas rare que les renseignements généraux, qui n'existent plus, qui ont changé de nom, nous téléphonent et nous disent « Telle église n'est pas dans votre annuaire. Est-ce que ce sont des gens recommandables ?» Et je devais me battre pour leur dire qu'ils n'avaient pas à déterminer à partir d'un annuaire qui était recommandable ou qui ne l'était pas. Alors bien sûr, ils ont besoin de renseignements, donc ils cherchent. Et ils voudraient toujours nous faire dire est-ce que ce sont des gens fréquentables ou est-ce que ce sont des gens infréquentables. Et vous savez, nous sommes tous soumis à cette pression qu'on a toujours un frère à côté de nous qui nous paraît un peu moins fréquentable que nous et qu'on aimerait bien laisser de côté. Et l'autre jour, on était en pleine discussion en bureau du CNEF sur la question des réseaux. Vous savez qu'il existe beaucoup de réseaux indépendants des dénominations. Et certains d'entre nous en faisaient la critique très vive. Et Edouard Nelson, l'un de nos vice-présidents, a dit « Mais vous savez ce que vous êtes en train de faire ? C'est ce que vous reprochez à la Fédération protestante de faire à votre égard. » C'est un jour de dire « Oh mais ceux-là, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas comme nous, etc. Hein » sans suffisamment de discernement. Donc oui, le risque existe. Quand même, deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le CNEF est organisé par nous. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec les autorités et nous leur avons fait valoir que nous n'avons pas eu besoin que l'État fasse un CFCM des évangéliques, Conseil français du culte musulman. Parce que vous savez que le Conseil français du culte du musulman est en fait une création de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Il ne fonctionne pas. Peut-être pas qu'à cause de son auteur, hein, parce que l'islam est extrêmement divisé. Bon, le risque existe, mais c'est en tout cas notre instrument et nous essayons de le vivre comme un instrument de représentation en nous gardant d'être hégémonique, hein, et de nous laisser instrumentaliser par l'État. Alors ça, c'est une question toujours difficile. Occasion de vous dire que vous pouvez prier pour nous.
Charles, tu veux poser une question ?
Deux remarques personnelles. J'ai eu la joie de collaborer avec Clément Diedrich, le directeur du CNEF, et j'ai trouvé là vraiment un frère en qui je place une grande estime, sa pierre. piété, son impartialité, sa capacité de travail, son humilité. Donc voilà, je voulais prendre témoignage au directeur du CNEF, tu es le président et le directeur. Donc c'était très édifié de travailler avec lui. Je suis aussi édifié de voir votre réactivité, quand même, hein, de capacité de réagir souvent avec intelligence aux défis qui se présentent, qui ne manquent pas de se présenter. Donc je trouve ça très fort. Deux petites questions. Est-ce que le fait de constituer une forme de lobbying ne serait pas la face négative du témoignage ou de la représentativité dont tu viens de parler à l'instant? Donc, le lobbying, c'est-à-dire une manière d'exister en comptant ses membres un petit peu, tu vois. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas représenter un danger par rapport à l'identité chrétienne qui doit être capable d'être modeste et discrète sans avoir honte de ce qu'elle pense? Et ma deuxième question, quels seraient les défis internes au CNEF que tu pourrais évoquer?
Alors, sur la première question, est-ce qu'au fond, si je te comprends bien, est-ce qu'au fond de compter ses troupes, ça risque pas de nous pousser à une forme d'orgueil?
D'orgueil ou d'agissement qui serait plus tout à fait pur comme on aimerait les voir, pas?
Vous savez, quand j'ai eu l'appel à être missionnaire à l'âge de 13 ans, j'avais l'impression que mes motivations étaient pures. Et puis, en grandissant, je me suis rendu compte que dans mon service du Seigneur, il y avait aussi un terrible besoin d'être approuvé des autres. Et j'avoue qu'en découvrant cela, et je me suis dit que les motivations qui m'animaient n'étaient pas si pures que cela. Et ça m'a déstabilisé, d'ailleurs. Puis j'ai appris que le Seigneur, dans sa grâce, fait aussi avec ce que nous sommes. Tout cela pour dire que je ne pourrai jamais prétendre que les motivations du CNEF, de ceux qui sont autour de la table du CNEF, sont entièrement pures. Qui pourrait le dire? Donc ça, c'est une première remarque. Tentation d'être un lobby, oui, nous devons veiller à ne pas être, à ne pas être comme David qui veut recenser ses forces, ce que l'Éternel lui reprochera vivement. Et ça, c'est une des difficultés. Tu parlais des défis, ça c'est un des défis qu'affrontent les évangéliques. Maintenant qu'ils ont une certaine visibilité médiatique, elle est faible, mais elle existe. Il y a chez certains d'entre eux une volonté de pouvoir qui apparaît. Et si on tourne les yeux vers les pays à très forte minorité évangélique, je pense à la Corée, je pense à l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, on voit apparaître des partis chrétiens. Et je dois dire qu'il m'arrive assez souvent de rappeler, quand je le peux, qu'il ne faut avoir retenu aucune leçon de l'histoire pour penser faire un parti chrétien et croire que c'est par la politique qu'on va changer les choses. Alors, je ne suis pas adepte du tous pourris et je pense qu'il serait pas mal que des croyants s'investissent en particulier dans la politique locale. Je suis plus réservée sur la politique nationale parce que je la trouve tellement partisane que je me demande si elle ne pousse pas obligatoirement à la compromission. Mais ce n'est que mon avis. Je crois que nous devons rester sel et lumière, sel de la terre et lumière du monde, et à ce titre-là, poil à gratter, ou voix prophétique. Et gardons-nous d'imaginer que c'est par le nombre les voies que nous allons influencer la société. C'est par l'annonce de l'évangile et l'appel à la conversion. Vous savez, dans l'histoire, quand l'Église est devenue Église d'État, ce n'est pas l'État qui a été christianisé, c'est l'Église qui s'est mondanisée. Toujours, toujours, toujours. L'histoire du constantinisme nous le rappelle. Et donc, il faut absolument garder des idées claires dans ce domaine. Et ça vient à mon deuxième défi évangélique, c'est celui de la formation. Je suis très préoccupé. Alors, je suis professeur de théologie, donc évidemment, je prêche pour ma paroisse. Mais comme je suis convaincu, je vais le faire quand même, sans hésiter. Mes amis, le monde évangélique grandit. Or, ma préoccupation, c'est que le nombre de personnes qui se forment pour prendre des responsabilités dans nos églises et dans nos œuvres ne grandit pas à la mesure du monde évangélique. Il y a un problème. Alors, il est de plusieurs natures. Je pense qu'il continue à traîner dans notre monde évangélique l'idée que la formation n'est pas spirituelle. Il reste dans notre monde évangélique un anti-intellectualisme de base que je pense n'a pas de fondement biblique. Il y a aussi dans notre monde évangélique l'idée que la spontanéité vaut mieux que les choses préparées. C'est du même ordre. Hein. Mais vous savez que l'idéal de spontanéité qui a été beaucoup véhiculé par le mouvement d'Arbis et le mouvement du Frère, et qui circule dans beaucoup de milieux chrétiens, doit beaucoup plus au romantisme qu'à la Bible. Sinon, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur a inspiré des prières et des chants que nous pouvons lire, nous approprier. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur nous a donné aussi une prière. Vous me suivez ? Vous savez, la spontanéité n'est pas plus saine que le travail intellectuel. La spontanéité, on peut dire spontanément de grosses bêtises. Et même en transpirant, on peut aussi faire des discours qui ne font pas justice à l'Évangile. Et puis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et je suis bien placé pour le savoir, c'est pas parce que quelqu'un est bien formé qu'on a tout gagné. Ma conviction, c'est que sans appel de Dieu, vous pouvez avoir la meilleure des formations, elle restera incomplète pour un service qui honore Dieu. Et puis, il y a d'heureuses exceptions aussi. On n'est pas tous obligés de passer par le même canal de formation. Mais quand même, on a besoin de théologiens, on a besoin de pasteurs qui aient une solide connaissance. Et on n'en a pas assez. Quand on veut réfléchir à des questions d'éthique, le nombre de pasteurs qui sont prêts à travailler sur des questions, alors qu'on a des questions majeures à affronter aujourd'hui, mais je peux les compter sur les deux doigts de ma main, en vous parlant de tout le monde évangélique. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui soient capables, mais la plupart me disent « Ah, mais j'ai pas le temps !» Oui, mais quand est-ce qu'on va le prendre ? Et après, nous nous plaignons... Il y a un défi immense, parce qu'après, nous nous plaignons de certaines dérives dans nos propres communautés. Je vais vous citer un seul chiffre. Les associations familiales protestantes ont commandé un sondage IFOP sur ce que croient les protestants. Et donc, avec un certain nombre de questions, entre autres sur l'éthique. Eh bien, sachez qu'il y a 15% des évangéliques qui vous disent qu'ils ne voient aucun problème à l'homosexualité. Et qu'il y a 60% des mêmes évangéliques qui vous disent qu'ils ne voient aucun problème à l'euthanasie. Pourquoi ? À cause de l'influence extérieure ? Mais vous savez, l'influence païenne a toujours existé. Moi, je pense que le problème, il n'est pas à l'extérieur, le problème, il est à l'intérieur. C'est parce que nous n'enseignons pas sur ces questions-là. Je me souviens d'un débat que j'ai eu, ben c'est à l'époque où j'entretenais un peu de contact avec Charles, mais plus par l'écrit, d'un débat avec un père de famille. On parlait de sexualité. J'avais parlé de sexualité avec les jeunes du groupe de jeunes à Carmaux. Et ces jeunes me racontaient des choses qui me faisaient déjà dresser les cheveux sur la tête, et par rapport à ce que j'entends aujourd'hui, c'était trois fois rien. Et je parle avec ce père, et je lui dis, mais... est-ce que tu parles de sexualité avec tes enfants ? Oh, il dit non, j'ose pas. Alors je dis, écoute, dis-toi une chose, c'est que si tu le fais pas, il y en a d'autres qui s'en chargent à ta place. Et ce qu'ils entendent, c'est pas ce qu'ils ont besoin de savoir. Alors il faut occuper le terrain. Et je pense que ça, c'est un des grands défis qui est devant nous en tant qu'évangélique. Alors, je parle d'Église, je parle de nos familles aussi.
D'autres questions ou remarques ? Dans l'ordre des difficultés, peut-être pour le CNEF, je rebondis sur ce que tu disais au sujet de la Fédération protestante de France et de l'intercommunion, puisqu'aujourd'hui, il y a une tension manifeste à l'intérieur de la Fédération protestante de France entre ce qu'on appelle l'entente évangélique, qui regroupe un peu...
La coordination
évangélique, qui regroupe donc toutes ces unions évangéliques et le reste, le pôle réformé luthérien, pour faire simple. Est-ce qu'il n'y a pas, au sein du CNEF aussi, un risque de tension, par exemple, entre certains groupes charismatiques, puisque Sébastien Fatt aussi, ou par exemple Bastian, parle en Amérique latine, au sujet des groupes charismatiques, d'une sortie du protestantisme.
Ouais.
Il y a des groupes charismatiques, quand même, qui sont en voie de sortie du protestantisme et qui n'ont du protestantisme, on pourrait dire, pour faire très simple aussi, qu'un vernis. Est-ce qu'il n'y a pas, au sein du CNEF, un risque de tension, là, entre un monde évangélique plus classique, issu de la FEF, et ainsi de suite, et ce monde charismatique à la frange, à la frontière, à l'extrême limite, peut-être même, du protestantisme historique ?
Alors, effectivement, il y a un problème. Donc, je suis entièrement d'accord avec l'analyse. Je pense que pour l'instant, Dieu nous en préserve pour la raison suivante. J'ai assez vite, quand j'ai été nommé président et que nous avons nommé un comité théologique pour travailler, j'ai assez vite pensé qu'il fallait qu'on travaille la question de la théologie de la prospérité. Pour quelle raison ? Parce que la question de la théologie de la prospérité est une question qui touche de façon très forte une partie du monde charismatique, y compris maintenant une partie des grandes églises des assemblées de Dieu, nouvelle manière, le top chrétien en particulier, donne à certains égards dans ce type de discours. Et un certain nombre d'églises d'origine africaine. Il faut savoir que la théologie de la prospérité fait des ravages en Afrique. Pour une raison qu'on peut s'expliquer. Vous savez que la théologie de la prospérité, pour faire simple, elle vient d'abord des États-Unis. Deuxièmement, elle promet de façon égale le salut, la guérison et la richesse matérielle. Et à l'intérieur de chacun de ces domaines, et en particulier la question du salut, il y a même des hérésies. Dans la question du salut, vous avez certains théologiens de la prospérité qui prétendent que Jésus, en descendant aux enfers, s'est converti. Je ne sais pas si vous imaginez, Je dis, on est dans une hérésie sur la christologie, c'est-à-dire sur quelque chose de fondamental. Puis après, vous avez évidemment une lecture qui écrase complètement la perspective biblique. C'est-à-dire qu'on parle d'Abraham, on saute aux chrétiens d'aujourd'hui, et puis on doit être riche comme Abraham, point à la ligne. C'est-à-dire, on ne fait absolument pas justice à la progression de la révélation, on ne fait pas justice à la simplicité de l'Évangile. Et donc, nous avons demandé au comité théologique de travailler sur ce sujet. Et à notre surprise, il y a eu unanimité de toute l'Assemblée générale pour voter ce texte, dont certains se sont mordus les doigts ensuite. Mais je pense que le Seigneur a été bon, parce qu'une fois qu'il était voté, il était voté, et qu'il représente une forme de préservation. Alors, ça ne veut pas dire que tout danger est écarté, mais aujourd'hui, nous pouvons, et c'était l'objectif, tranquillement dire non sur ces questions. Nous avons pris une position. Si vous voulez la connaître, vous pouvez la consulter. Alors, ça nous a valu quelques inimitiés, en particulier de tous ceux qui sont à la limite, sont sur la frange, et qui, par exemple, sont très gênés que Joyce Meyer soit mentionnée dans ce livre. Vous savez qu'on considère qu'il y a des théologiens de la prospérité qui sont très très agressifs, très, très, très avancés dans leur théologie, et on considère que d'autres sont des théologiens soft de la prospérité, et malheureusement, elle en est aussi. Et ça, à l'heure de déplaire à un certain nombre d'évangéliques, tant pis. Voilà ce que je peux dire. Et du coup, d'une certaine manière, le monde charismatique, pour l'instant, à l'intérieur du CNEF, ne va pas trop, en tout cas, dans les prises de position de ce côté-là. Voilà. Mais je reconnais qu'il y a, dans le charismatisme, il y a aujourd'hui, alors il y a eu des vagues successives, et il y a aujourd'hui des mouvements qui s'éloignent du protestantisme. Jusqu'à des formes de néopentecôtisme, alors pas en France, je ne peux pas vous le dire, mais des formes de néopentecôtisme en Amérique du Sud, dans lesquelles s'introduisent du chamanisme. Hein. Donc des choses tout à fait problématiques. Oui.
Le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'en général, ce sont ceux-là qui sont les plus envahissants dans les pastorales, dans les villes qu'on connaît, qu'on fréquente, et qu'il y a un problème qui me semble, qui a été reconnu d'ailleurs par un professeur de théologie que tu connais bien, c'est le double langage. Il a dit, je les ai entendus parfois être entièrement d'accord par rapport à une position évangélique et dire exactement l'inverse à des réunions publiques le lendemain. Alors, il me semble qu'il y a un certain consensus au niveau des colloques, des rencontres théologiennes, des partages, etc. etc. On a peut-être fait signer quelque chose, mais finalement, ça déguise quand même une volonté d'action énorme dans beaucoup les églises, et en tout cas, on a souvent affaire à ça dans les. Si je prends par exemple, même dans le Nantois, j'avais encore d'avoir quelques échos. À partir où il y a la pastorale, il faudrait faire une grande rencontre évangélique. Nos amis, d'autres préfèrent un professeur de la faculté de théologie pour avoir un enseignement pastoral correct. Mais à ce moment-là, alors, les autres ne viennent pas. Et s'ils viennent, alors c'est eux qui le dirigent à leur manière. Et on se trouve confronté à ça presque partout. Enfin, c'est à Grenoble, c'est à Marseille aussi, et à plein d'endroits comme ça, on est souvent confronté à ce genre de problème. C'est ce double langage qui était reconnu par un éminent professeur quand même.
Moi, je prends au sérieux ce que la personne me dit en face de moi et je pousse la logique pour voir jusqu'où elle va. Et je pense que c'est un principe de confiance qui doit s'accompagner d'une certaine fermeté si la confiance est trahie. Et puis, il faut aussi que vous ayez conscience d'une chose. Il y a les meneurs et il y a les suiveurs. Et parmi ceux qui suivent, il y en a qui simplement n'ont jamais entendu de choses solides. Et s'ils les entendaient, pourraient être gagnés à une cause de l'Évangile sérieuse. Et ça, c'est particulièrement vrai, ça c'est une vraie préoccupation, c'est particulièrement vrai du pullulement des églises africaines, dans lesquelles vous avez de tout. Vous avez des escrocs patentés, j'en ai rencontré, je peux vous parler de choses précises, mais ce n'est pas utile que je le déballe ici. Vous avez des escrocs patentés. Vous avez des gens de bonne volonté, mais qui ne sont absolument pas formés, donc qui partent un peu dans le décor. Et vous avez aussi de belles choses. De belles choses avec des frères, peu de formation, mais un cœur pour le Seigneur, qui réussissent en matière de, par exemple, d'implantation dans un quartier difficile et d'action sociale et d'annonce de l'Évangile, des choses qu'aucune de nos églises aujourd'hui ne semble capable de faire. Donc, il y a de tout. Notre préoccupation, c'est comment les toucher, comment les intégrer à un réseau, je ne parle pas du CNEF, mais au moins un réseau de relations, pour pas qu'ils dévient simplement dans leur isolement. Alors, nous sommes plusieurs à essayer de faire des choses. Hein. À l'Institut biblique de Nogent, nous avons une formation le samedi, depuis deux décennies au moins, pour les, les pasteurs de ces églises. Mais la grande difficulté, c'est que c'est un monde très mouvant. Il s'ouvre des églises, il s'enferme. Et puis, il y a des gens qui en font un business. Hein. Je parlais d'escrocs, c'était un mot choisi, mais il y a aussi des gens qui font du business. Il y a de vraies entreprises dans ce domaine. Donc voilà. Sans tout jeter, comment faire pour raccrocher ceux qui simplement auraient besoin d'un réseau, d'une formation pour donner le meilleur et non pas suivre des gens qui ont des idées peu recommandables.
Bien, alors avant de nous quitter, je vous propose de vous rappeler trois choses. D'abord, ces deux collections hein, dont Étienne Armenot a parlé, libre de le dire, une collection très accessible qui traite de sujets qui sont pertinents et que les jeunes chrétiens, mais pas seulement les jeunes chrétiens, traversent parfois avec difficulté. C'est une petite collection très accessible et qui se lit facilement et où les problèmes sont posés de manière complète, mais sans aller évidemment dans tout le détail des explications, sinon ça serait trop long. Donc libre de le dire, je vous invite à découvrir cette collection du CNEF et puis les textes du CNEF. C'est aussi une très bonne collection qui va déjà plus loin dans le travail d'élaboration, le contenu, et qui, il y en a un aussi sur la laïcité qu'on n'a pas ici ce soir parce qu'on s'est fait dépouiller pour un stand à Marseille et pour Paris, mais il y a déjà celui de la théologie de la prospérité, celui-ci aussi sur les questions juridiques. Et ces textes-là aussi approfondissent justement ces thématiques et les approfondissent sur un plan théorique et pratique. Donc ça permet aussi de pas perdre pied et de voir aussi comment justement les questions juridiques peuvent être appliquées de manière concrète et pratique au quotidien. Et je vous rappelle enfin, troisième chose, le programme de la librairie. Ici, c'est les protestants à l'épreuve du pouvoir. On a terminé ce cycle. Hein. C'était la dernière conférence ce soir avec Étienne Nermenot. On attaquera l'année prochaine les protestants à l'œuvre. On commencera avec une conférence de Céline Borello le 13 janvier, ici à Alès. Elle inaugurera donc ce cycle, qui est professeure, donc Céline Borello, à l'Université du Mans. Et elle viendra nous parler. Vous savez que la question des œuvres est une question pour les protestants qui a toujours été délicate, puisque c'est une question théologique en tension hein, avec le salut par la foi, on le sait bien, même si l'épître de Jacques l'a largement développé. Il n'a pas toujours été facile pour le protestantisme, comme pour le revivalisme d'ailleurs, hein, donc le monde évangélique, de travailler et de vivre avec cette question des œuvres. Elle a parfois aussi conduit à des dérives, elle peut nous y conduire encore aujourd'hui. On pourrait dire que c'est aussi un des aspects de la théologie de la prospérité, justement. Et cette professeure, donc, Céline Borello, viendra nous parler de la question des œuvres dans les prédications des pasteurs au XVIIIe et XIXe siècle, comment, justement, dans leurs prédications, hein, eh bien, ils introduisaient, ils intégraient cette question des œuvres et comment ils le conciliaient hein, avec ce salut par la foi seule, cette radicalité hein, du salut par la foi. Voilà, et puis on continuera ce cycle hein, au travers des conférences à Alès, mais pas seulement, à Paris aussi, hein, et à Cholet, et puis aussi à Aix et Metz. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ce programme qui n'est pas encore sorti, on l'attend, il devrait arriver dans les jours qui viennent, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et puis enfin, je vous fais un coup de publicité aussi pour la librairie Jean Calvin de Paris, n'hésitez pas à en parler, à prendre des marque-pages, à la faire connaître autour de vous, hein, car ce n'est pas une mince affaire que de lancer une nouvelle librairie. Donc on a bien besoin de votre soutien. Je vous remercie à tous. Je vous propose de remercier encore chaleureusement aussi la venue de notre conférencier ce soir, Étienne Lermenot. Merci à tous.